Nous sommes enfants de Dieu. Nous l'avons reçu, cette grâce, en général, pour chacun d'entre nous, la première fois, le jour de notre baptême. Et nous l'avons retrouvée, recouvrée si nous l'avions perdue, par le sacrement de pénitence. Évidemment, dans cette grâce, nous devons grandir. Nous devons grandir dans cette amitié divine, dans cette amitié de Dieu. Parce que notre Seigneur veut que nous portions beaucoup de fruits. Voilà en effet ce que dit le Concile de Trente. Une fois que nous sommes purifiés et devenus amis de Dieu et membres de sa race, par la grâce sanctifiante, nous nous renouvelons de jour en jour, comme dit saint Paul, marchant de vertu en vertu. Nous croissons par l'observance des commandements de Dieu et de l'Église dans l'état de justice où nous avons été placés par la grâce de Jésus-Christ. La foi coopère à nos bonnes œuvres et ainsi nous avançons dans la grâce qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Car il est écrit que le juste devient toujours plus juste et encore progresser dans l'état de justice jusqu'à la mort. C'est cette augmentation de grâce que demande l'Église quand elle dit à Dieu « Donnez-nous un accroissement de foi, d'espérance » et de charité. Donc, voyez, le Concile de Trente ainsi nous indique qu'avec nos œuvres, eh bien, l'exercice des vertus, principalement les vertus théologales, est à la source de notre progrès spirituel, de notre accroissement spirituel, dont la grâce est le principe. Donc, par la grâce, nous sommes enfants de Dieu, et par les vertus surnaturelles infuses, eh bien, nous pouvons agir en enfants de Dieu, produire des actes qui sont dignes de notre fin surnaturelle. Ainsi donc, nous allons voir ce matin, nous allons parler un peu donc des vertus théologales. Les vertus théologales, là aussi, je pense vous rappeler tout votre catéchisme, il y en a trois, la foi, l'espérance et la charité, les trois vertus théologales. Ce sont des vertus. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? On peut le dire, c'est une puissance, si vous voulez, qui nous permet d'agir surnaturellement. Ces vertus surnaturelles, des puissances d'agir surnaturellement. Ou alors, si vous voulez, des forces qui vont nous rendre capables de vivre en enfant de Dieu. Et donc, ainsi, de parvenir à la béatitude céleste. Donc, ces forces, ces vertus vont nous permettre de vivre vraiment comme enfant de Dieu, et donc, évidemment, atteindre notre but, le ciel. Pourquoi sont-elles appelées théologales? Parce qu'elles ont Dieu immédiatement pour objet. Théologal, théos, Dieu. Par elles, nous croyons en effet, par ces vertus, ben, nous croyons en Dieu, nous espérons en Dieu et nous aimons Dieu. La foi, espérance, charité. Et leur rôle, eh bien, c'est de nous unir à Dieu par Jésus-Christ pour nous faire participer à la vie divine. Voilà leur rôle, effectivement, que nous soyons toujours bien unis à notre Seigneur. Donc ainsi, la foi va nous unir à Dieu, vérité infinie, on va reparler évidemment, et va nous faire entrer, on peut dire ainsi, en communion avec la pensée divine, puisqu'elle nous fait connaître Dieu en lui-même. Et elle nous fait connaître Dieu comme Dieu s'est révélé. Donc par là, elle nous prépare, la foi va nous préparer à la vision béatifique. L'espérance, elle aussi, nous unit à Dieu, suprême béatitude, Dieu suprême béatitude, et elle nous le fait aimer bien comme bon pour nous. Donc l'espérance nous montre qu'effectivement, il est bon pour nous d'aimer Dieu. Et puis, toujours par l'espérance, eh bien, nous attendons avec fermeté, sécurité, le secours de Dieu. Le bonheur du ciel, le secours de Dieu qui nous permettra d'aller au ciel. Enfin, la charité, évidemment, nous unit à Dieu, bonté infinie. Et nous le fait aimer comme infiniment bon, infiniment aimable en soi. Donc, la charité va nous unir à Dieu parce qu'elle va établir une sainte amitié entre Dieu et nous. Alors essayons de voir un peu plus précisément chacune de ces trois vertus. Donc nous commençons évidemment par la foi. Alors la foi d'une façon générale. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est l'adhésion de notre intelligence à la parole d'un autre. En effet, par exemple, quand un homme loyal, intègre, nous dit quelque chose, eh bien, nous l'admettons. On dit que nous avons foi en sa parole. Effectivement, j'ai foi en ce que vous m'avez dit, parce que bon, vous êtes loyal, j'ai confiance en vous. Donc, on adhère à ce qu'il nous a dit. La foi surnaturelle, maintenant, la vertu, eh bien, c'est l'adhésion de notre intelligence non plus à la parole d'un homme, mais à la parole de Dieu. On adhère à la parole de Dieu. Comme Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper, eh bien la foi est un hommage rendu à Dieu, comme considéré comme vérité suprême, autorité suprême. On sait, on adhère à Dieu, à ce que Dieu nous dit, parce que Dieu peut ni se tromper ni nous tromper. Ainsi, on peut définir la foi comme une vertu théologale qui incline notre intelligence sous l'influence de la volonté et de la grâce à donner un ferme assentiment aux vérités révélées à cause de l'autorité de Dieu. Donc on peut dire, c'est vrai, c'est cette vertu qui va incliner notre intelligence, qui elle va être mue par notre volonté et évidemment la grâce, eh bien, incline notre intelligence à donner un assentiment ferme aux vérités révélées à cause de l'autorité de Dieu, parce que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Donc, on adhère fermement à ce que Dieu nous révèle. Donc, la foi, c'est avant tout vraiment un acte de notre intelligence. Donc, ça, c'est important de se le rappeler. Surtout aujourd'hui, on va vous dire, la foi, c'est quelque chose c'est un sentiment. Je sens que c'est vrai. Non, c'est faux. La foi est d'abord dans l'intelligence, c'est un acte de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de connaître une vérité. Vous savez, la vérité est l'objet de l'intelligence. Seulement, comme cette vérité n'est pas intrinsèquement évidente, c'est-à-dire évidente en elle-même, eh bien évidemment, il va falloir un acte de notre volonté. Notre adhésion va se faire par notre volonté qui va commander à l'intelligence d'étudier les raisons de croire. Notre volonté va dire, bien, elle va pousser notre intelligence à voir, bien, est-ce qu'on peut croire, est-ce que ces raisons sont convaincantes. Et comme en même temps il s'agit d'un acte surnaturel, donc il faut la grâce de Dieu, évidemment. Il faut aussi la grâce de Dieu qui doit intervenir pour éclairer notre intelligence et aider notre volonté. C'est ainsi que l'acte de foi, bien, reste un acte libre. Libre, surnaturel et donc méritoire. Donc la foi est essentiellement un acte libre. Puisque vous voyez, nous avons l'intervention de nos facultés supérieures, intelligence et volonté. Donc on ne peut pas forcer quelqu'un à croire. C'est pas... Même Dieu ne force pas quelqu'un à croire. Puisque ensuite, quand on va nous croire, adhérer, eh bien il y aura de notre part un mérite, ça sera un acte méritoire, puisque nous ferons par notre propre volonté. Alors, qu'est-ce que nous devons croire? Qu'est-ce qu'est l'objet, comme on dit, l'objet matériel de notre foi? Qu'est-ce qu'on doit croire? Eh bien, c'est tout l'ensemble des vérités révélées. Soit bien celles que notre raison ne peut pas découvrir. Par exemple, on vous a parlé de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est quelque chose que notre raison ne peut pas inventer, ne peut pas découvrir. Bon, ben, on croit parce que c'est Dieu qui nous l'a révélé. Ou alors, il y a des vérités que nous pouvons découvrir, que notre raison peut découvrir, mais avec la foi, elle va mieux les connaître. Bon, par exemple, l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, les propriétés divines dont nous avons parlé. Éclairée par la foi, notre raison est beaucoup plus ferme que si il fallait qu'elle découvre elle-même toutes ces vérités. Regardez la comparaison entre nous-mêmes, j'allais dire, et peut-être un Aristote. Un Aristote, philosophe païen, qui est arrivé quand même à démontrer l'unicité de Dieu, mais c'est tout un cheminement qui est long, qui n'est pas évident. Alors pour nous, ça nous paraît évident, si vous voulez. Parce qu'avec la foi, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Quel est le motif de notre foi? Eh bien, c'est, comme je l'ai dit, déjà l'autorité divine. L'autorité de Dieu qui se manifeste par la révélation. C'est Dieu qui va nous communiquer bien quelques-uns, j'allais dire, de ses secrets. Alors souvent, cette vérité révélée par Dieu nous est proposée par l'Église, certaines fois par l'Église, qui est l'interprète officiel de Dieu, de notre Seigneur, qui a fondé son Église entre autres pour cela. Et alors, on va parler d'une vérité de foi catholique. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Vérité de foi catholique veut dire que c'est une vérité révélée par Dieu, mais qui nous est proposée par l'Église, que l'Église a tirée du donné révélé. Ou s'il n'y a pas de décision spéciale authentique de l'Église, on va tout simplement parler d'une vérité de foi divine, tout simplement. Bon, juste un petit explication de vocabulaire. Enfin, il faut bien se dire qu'il n'y a rien de plus ferme que l'adhésion de foi, parce que nous avons pleine confiance dans l'autorité divine, beaucoup plus que dans nos propres lumières. Donc, l'adhésion de notre foi est quelque chose de très ferme. Et puis évidemment, toujours la grâce est là pour nous aider, pour nous sécuriser. Donc si vous voulez, la foi, l'adhésion de notre foi est plus vive, presque, enfin même plus vive, même plus ferme que l'adhésion des vérités rationnelles, si vous voulez. Parce qu'on est sûr de ne pas se tromper. Adhérer à ce que Dieu nous a révélé, eh bien on a plus de chances, notre adhésion est plus ferme que d'adhérer à des vérités rationnelles. Parce qu'on peut se tromper. Est-ce que je suis sûr d'avoir bien résolu un problème de mathématiques, par exemple? Bon, dans la mesure, oui, mais de temps en temps, on peut être pas être sûr. Avec la foi, on est sûr toujours à 100%. Alors, est-ce que la foi est nécessaire? Oui, elle est absolument nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'on peut dire qu'elle est le commencement, le fondement et même la racine de notre justification, de notre sanctification. Si vous voulez, c'est le commencement de notre sanctification parce que Dieu se fait connaître. Se fait connaître. En effet, si nous voulons vivre du surnaturel et l'aimer, il nous faut le connaître. Là aussi, je vous l'ai déjà dit, on n'aime pas ce qu'on ne connaît pas. Et bien, si vous voulez aimer Dieu, vivre de sa grâce, il nous faut l'aimer, le connaître. Et comment le connaître? C'est la foi qui va nous le faire connaître. Donc, vous voyez déjà l'importance, évidemment, de la foi. Donc, le commencement. Elle est le fondement aussi de notre vie spirituelle. Si vous voulez, un édifice, regardez ce séminaire, solide, il y a des fondations qui sont sur le rocher, qui sont solides. Donc si nous voulons que notre vie spirituelle se développe bien, il faut que ces fondations, notre foi, soient solides. Autrement, si notre foi est faible, il suffit d'un peu d'une tempête et puis ouf, tout s'écroule. Donc si au contraire nous avons une foi solide, alimentée, nous pourrons avoir des tentations, des tempêtes, etc. Mais la maison tiendra. La maison tiendra, elle ne s'écroulera pas. Parce que de temps en temps, vous-même, vous pouvez être surprise de connaître telle ou telle personne que vous croyez pourtant, qui était, une bonne chrétienne ou un bon chrétien, et puis, pouf, d'un coup, il a tout abandonné. Peut-être qu'effectivement, sa foi n'était pas solide. C'était une foi superficielle, qu'il n'avait pas travaillé. Et alors, une tempête arrive, tout s'écroule. Donc, si vous voulez, si nous voulons un fondement solide de notre vie spirituelle, il faut une foi solide. Donc, elle est vraiment la base de notre vie spirituelle. Elle nous unit évidemment à Dieu, source de lumière, comme je l'ai dit déjà, pour notre intelligence, force pour notre volonté. Donc là, on est sûr de pas se tromper. Et en même temps, nous fait gagner de nombreux mérites. Oui, la foi, c'est une vertu absolument nécessaire. Personne ne peut se sauver sans la grâce sanctifiante. Ça, vous le savez. Or, la grâce sanctifiante n'existe pas sans la foi habituelle. C'est saint Paul qui nous le dit dans son épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Ensuite, dans l'Évangile, eh bien, on voit que notre Seigneur, précisément, réclame cette foi. Tous ceux qui s'adressent à lui, notre Seigneur leur demande d'abord la foi. Vous avez multiples exemples. Un en particulier, vous avez des aveugles qui viennent voir notre Seigneur et qu'il lui demande leur guérison. Qu'est-ce que dit notre Seigneur ? Croyez-vous que je puisse vous guérir ? Il pose la question, est-ce que vous croyez ? Ils répondent, oui Seigneur. Alors il leur touche les yeux et qu'il soit fait selon votre foi. Donc ils sont guéris. Vous voyez, notre Seigneur demande la foi de ceux qui s'adressent à lui. Donc la foi, il en fait même une condition indispensable de ses miracles, même avec ses amis. Donc vous savez, les grands amis de notre Seigneur, bon, outre ses apôtres, mais vous avez aussi Lazare, Marthe et Marie. Et quand Lazare est mort, donc notre Seigneur arrive 4 jours après, et puis Marthe vient dire à notre Seigneur, ben pourquoi, si vous aviez été là, eh bien, notre ami ne serait pas mort. Alors, qu'est-ce que va demander notre Seigneur à Marthe? Eh bien, il va lui demander un acte de foi avant de ressusciter son ami. Est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Oui, Seigneur, je le crois. Donc, il demande cet acte de foi. Et ensuite, effectivement, il va ressusciter son ami Lazare. Donc, vous voyez, on voit notre Seigneur qui réclame cette foi, qu'en fait même une condition indispensable. On peut même ajouter que la foi est si agréable à notre Seigneur qu'elle finit par obtenir de lui ce qu'il n'était pas disposé à donner. Et là, vous avez ce fabuleux exemple qui est merveilleux. Vous connaissez évidemment, c'est celui de la Cananéenne. Je ne peux pas ne pas m'empêcher de vous le relire. C'est vraiment un très bel exemple de foi. Donc ça, vous trouvez, c'est dans saint Matthieu, chapitre 15. Versets 22 et suivantes. Voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est fort malmenée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchant le priaient « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. » On imagine le tableau, notre Seigneur, les apôtres, qui font un barrage, et puis la femme derrière en train de crier. Alors les apôtres, ils en ont assez, ils disent ben, « Écoutez, faites quelque chose, parce que là, on n'en peut plus. » À quoi il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc notre Seigneur dit aux apôtres « C'est une cananéenne, c'est une étrangère, moi je ne suis venu que pour les brebis d'Israël. » Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui. Donc elle a réussi à contourner les apôtres et à se mettre devant notre Seigneur. Devant lui en disant « Seigneur, venez à mon secours. » Qu'est-ce que répond notre Seigneur ? Il lui répond « Il ne sied pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est quand même assez sévère. Elle dit « Bah oui, donc en clair, il traite la cananéenne de chien. » Alors elle, qu'est-ce qu'elle répond ? Elle aurait pu dire « Bah si c'est comme ça, je m'en vais. » Non. « Oui, Seigneur, dit-elle. » Et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc elle dit, bah oui, c'est vrai, je suis peut-être un petit chien, mais les petits chiens, bah, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc si vous voulez, je vous en supplie, et bah, guérissez ma fille. Alors Jésus lui répondit, ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. Et de ce moment, sa fille fut guérie. C'est un merveilleux exemple. justement de la foi de cette cananéenne qui permet d'obtenir de notre Seigneur ce qui, a priori, n'était pas disposé à donner au départ. Donc, vous voyez, comme quoi la foi est vraiment agréable à notre Seigneur. On voit donc cette foi, c'est la première vertu que notre Seigneur réclame de ceux qui s'approchent de lui. Mais est-ce que la foi suffit? Est-ce que la foi seule suffit? Ça vous rappelle peut-être Luther, qui disait, pas besoin de faire des œuvres, seule la foi. Ou est-ce que dit Don Marmion, est-ce que la foi seule suffit? Non. Les sacrements et l'observation des commandements sont aussi nécessaires. Mais un homme qui ne croit pas en Jésus-Christ n'a que faire de ses commandements et de ses sacrements. D'autre part, c'est parce que nous croyons en la divinité de Jésus que nous observons ses préceptes et que nous nous approchons des sacrements. La foi est donc la base de toute notre vie surnaturelle. Donc, comme on l'a déjà dit, vraiment base de notre vie surnaturelle, la foi. On voit bien ça, ce que nous demande notre Seigneur, et nous unit à Dieu, comme nous l'avons dit. Alors, comment pratiquer cette vertu de foi? C'est-à-dire, tout au départ, eh bien, Dieu nous demande évidemment notre prière, nos efforts personnels. Donc, si on progresse au départ un petit peu de notre vie spirituelle, évidemment, il faut d'abord remercier Dieu de ce don de la foi. C'est vraiment un don qu'il nous a fait. Il faut savoir le remercier. Remercier Dieu de notre baptême, de cette foi qu'il nous a donnée. Ensuite, eh bien, prier, faire cette même prière que faisaient les apôtres à notre Seigneur. Seigneur, augmentez ma foi. Seigneur, augmentez notre foi. Donc, prier. Ensuite, étudier. Donc, ne pas garder une foi d'un petit enfant. Ne restez pas avec la foi de votre catéchisme. Il faut étudier. Donc, lire des livres qui vont éclairer, fortifier notre foi. Ça, c'est important. Ensuite, évidemment, le côté négatif, c'est éviter ce qui pourrait troubler notre foi. Si nous ne sommes pas assez fortes dans la foi, eh bien, il ne faut pas se laisser troubler. Donc, par exemple, les lectures imprudentes, où sont attaquées, persiflées ou mises en doute les vérités de la foi. Donc, attention à ces lectures. C'est pour ça, autrefois, l'Église avait ce qu'on appelait l'index. Elle mettait dans un catalogue les livres qu'elle jugeait dangereux pour la foi ou les mœurs. Bon, malheureusement, donc c'est Paul VI, je crois, en 1967, il me semble, qui a supprimé cet index. Donc maintenant, on est soi-disant adulte et on peut lire tout ce qu'on veut. Ben non, on voit les dégâts. Donc l'Église, avant, avait soin de protéger, justement, la foi et les mœurs, évidemment, de ses enfants. Donc attention aux lectures imprudentes. Il y avait aussi, un curé, j'étais enfant, mais c'est bon, moi mes parents s'en rappelaient, curé du village où on était, qui disait à ses fidèles, ses paroissiens, eh bien, surtout ne discutez jamais avec les témoins de Jéhovah. Parce qu'à l'époque, bon, on était à la campagne, et effectivement, les témoins de Jéhovah circulaient un peu dans les campagnes, de maison en maison. Eh bien, ce curé disait, ne discutez jamais avec eux. Parce que justement, il savait peut-être que la foi de ces ouailles était faible, et donc ils risquaient de se faire troubler par ces discussions. Donc là, il faut être prudent. Bon, ça m'est arrivé, comme prêtre, du coup, de discuter avec des témoins de Jéhovah. C'est vrai qu'ils sont... Ils sont de mauvaise foi. Disons, si vous ne connaissez pas bien votre Sainte Écriture, notre doctrine, on peut se faire avoir, parce que ce sont au moins des polémistes. Mais on peut les prendre en défaut. Seulement, ils ont l'art de la discussion. Je me rappelle très bien, une fois, bon, ils nous font une objection. Donc, ils nous présentent un texte de la Sainte Écriture. Alors déjà, première chose, ils n'ont pas la même Bible. Donc, ils ont souvent des traductions qui sont différentes. Ils ont certains livres qui n'ont pas. Donc, déjà, il faut prendre la nôtre, la Bible catholique. Bon. Ensuite, quand ils vous sortent un texte, vous dites, oui, d'accord, mais ce texte, il faut l'interpréter avec cet autre texte. Alors, si vous arrivez à les coincer en disant, non, c'est vous qui avez tort, vous pouvez rien dire. Alors, tout de suite, ils changent de discussion, ils disent, ah oui, non, mais regardez là. Alors, hop, ils changent de sujet. Donc, si vous voulez, ils n'auront jamais tort. Donc, c'est quasiment des discussions qui servent à rien. Et à chaque fois, enfin, ça m'est arrivé 2-3 fois, il me semble, oui. À chaque fois, je lui demande, mais vous étiez catholique? Je crois, sauf une fois, ils m'ont tous dit oui. C'était tous des catholiques, hein, qui ont apostasié, quoi. Sauf une fois, hein, c'était un monsieur qui venait avec une jeune fille qui devait avoir 18, 20 ans. Et elle, non. Elle me disait qu'elle avait toujours été témoin de Jéhovah. Mais les autres, ils m'ont tous dit, ils étaient catholiques, quoi. Donc c'est triste. Donc ça montre que c'est des gens qui se sont fait prendre par des sectes parce que leur foi était faible. Donc, comme disait ce brave curé, eh bien, si vous ne vous sentez pas forte, attention, ne vous mettez pas en occasion d'être troublé. Et puis aussi, il faut éviter évidemment l'orgueil intellectuel, hein, qui veut dire « je n'accepte que ce que je comprends ». Ah oui, non, il faut savoir que notre raison est bien faible, hein, qui est au-dessus de nous un esprit beaucoup plus fort, hein, qui connaît tout parfaitement. Ensuite, juste peut-être un petit mot pour les tentations contre la foi. Donc ça, il ne faut pas être surpris. Ça arrive à tout le monde, on peut tous avoir des tentations contre la foi. Alors que faire quand nous avons ces tentations? Bon, il y en a qui peuvent être vagues. C'est-à-dire, bon, on se pose une pensée survient en disant, mais est-ce que tout cela, c'est vrai? Est-ce que tout ce qu'on me raconte, est-ce que c'est vrai? Bon, devant de telles tentations, j'allais dire, c'est vraiment les considérer comme des mouches. C'est-à-dire, on les chasse, quoi. On fait un acte de foi et puis on dit non, moi je m'appuie sur l'autorité de Dieu. On fait un acte de foi. Par contre, si ensuite c'est sur un point concret, pratique, il y a quelque chose qui vraiment nous perturbe, on n'arrive pas, on est dans l'obscurité, on dit mais c'est pas possible. Bon, je sais pas, le lien entre la liberté humaine et la grâce divine, mais comment suis-je libre si Dieu sait tout, etc. Mais si c'est tout, c'est que donc je suis pas libre parce qu'il sait où je vais aller. Bon, bref. Donc, à un moment, le démon peut nous tenter. Alors, si c'est sur un point précis, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours réagir par un acte de foi. Mon Dieu, je crois. Et puis ensuite, après, une fois qu'on a retrouvé un peu le calme, eh bien, effectivement, étudier le problème qui nous a posé quelques doutes. Demandons à un prêtre ou voyons un livre pour essayer de se former. Parce qu'on a peut-être une faiblesse. Rappelez-vous aussi l'histoire qui était arrivée à Saint-Vincent de Paul, quoi, qui avait un pénitent qui était assailli de grandes tentations contre la foi. Et bon, alors il réconforte, il dit, allez, je prierai pour vous. Et Saint-Vincent de Paul fait une prière en disant, Seigneur, écoutez, je vous demande la grâce de prendre sur moi ces tentations contre la foi et d'en délivrer cet homme. Il a été exaucé. Donc le pauvre Saint-Vincent de Paul s'est trouvé assailli de tentations contre la foi. Alors, il a dit, bon, on calme le jeu. Il a écrit sur un papier le symbole des apôtres, je crois en Dieu, etc. Il a mis un papier, il l'a mis dans sa poche. Et à chaque fois qu'une tentation arrivait, il touchait sa poitrine, son papier, en disant « Seigneur, je crois ». Puis c'est tout. Et puis il s'occupait à ses occupations. Et au bout d'un moment, ben évidemment, le démon en a eu assez, donc c'est parti. Donc c'est vrai, quand on est assailli, « Seigneur, je crois ». Puis on s'occupe à autre chose. Voilà, puis ensuite, évidemment, si on veut progresser, bien vivons de la foi. Lisons le Saint-Évangile, etc. Donc vivons-en. Voyons toutes les choses sous l'œil de Dieu. Voilà un petit peu pour la foi. On pourrait dire beaucoup plus d'autres choses, mais comme le temps passe, il y a encore les deux autres vertus, donc il faut un peu passer. L'espérance. L'espérance, comment peut-on définir cette vertu d'espérance? Eh bien, vertu théologale qui nous fait désirer Dieu comme notre bien suprême. Et donc attendre avec une ferme confiance, à cause de la bonté et de la puissance divine, donc nous fait attendre avec confiance la béatitude éternelle et les moyens d'y parvenir. Donc on désire Dieu comme bien suprême, et en même temps on attend avec une ferme confiance, parce que Dieu est bon et qu'il est tout-puissant, eh bien on attend cette béatitude éternelle et les moyens pour y parvenir. Donc on sait que Dieu, c'est notre béatitude. On sera parfaitement heureux avec lui et on sait en même temps qu'il va nous donner les moyens de parvenir à ce secours, à ce bonheur éternel. Donc le motif de l'espérance, c'est vraiment cette bonté de Dieu. Bonté de Dieu à notre égard et sa puissance qui va soulever nos âmes pour les arracher un petit peu au bien de la terre, pour les porter vers le ciel. Donc on sait que Dieu est tout-puissant, hein, qui va nous aider à obtenir le ciel. Voilà l'espérance. Donc cette espérance nous unit à Dieu en nous détachant des biens terrestres. C'est-à-dire qu'on ne va pas attacher notre âme aux biens terrestres. Donc, en effet, on est attiré, ben, vous le savez, par les plaisirs sensibles, les satisfactions de notre orgueil, fascination des richesses, etc., des joies naturelles, etc. Donc on a tendance à rester accroché à la terre. Ben, l'espérance, justement, va nous élever vers le ciel. Elle va nous dire, attention, les vrais biens, ils sont en haut. Ensuite, eh bien, on va voir, elle va nous faire voir un petit peu l'efficacité de nos prières. L'espérance, c'est elle qui va donner cette efficacité à nos prières. Et là, on le voit aussi dans la vie de notre Seigneur, dans l'Évangile. Bon, je vous ai parlé de cette Cananéenne. Ben, si elle n'avait pas eu l'espérance, elle serait partie. Sa fille n'aurait pas été guérie. On voit notre Seigneur guérit un petit peu facilement tous ceux qui ont grande confiance. Bon, la foi, bien sûr, mais en même temps, cette confiance. Vous avez l'histoire du paralytique qui part par le toit, qui descend par le toit au pied de notre Seigneur. Là aussi, notre Seigneur va le guérir, etc. Donc, beaucoup d'exemples dans la vie de notre Seigneur de guérison. Alors, l'espérance est un grand principe d'activité féconde parce qu'elle nous donne ses grands désirs, ses saints désirs du ciel. Et en même temps, elle va augmenter notre énergie parce qu'on a la perspective d'une récompense. Donc elle nous stimule. Il n'y a qu'à voir. Regardez-vous quand vous êtes découragé. Bah, on n'est pas bon à grand-chose. Hein. Oh non, rien ne va plus, tout va mal, il pleut toujours, il fait noir, rien ne va plus, j'ai mal partout. Donc on fait rien, quoi. Puis au contraire, quand on est plein d'espérance, alors là, du coup, allez, on sent dessus, la maison est propre, du grenier jusqu'à la cave, enfin on y va. Bon, domaine naturel, mais sur le domaine spirituel, c'est pareil. Quand on est porté par l'espérance, bon, on a nos croix, nos difficultés, mais ensuite, on regarde, on lève les yeux au ciel, quoi, si vous voulez. L'espérance est vraiment un moteur, elle augmente notre énergie. Alors, pour notre vie spirituelle, je pense qu'il y a deux écueils à éviter, évidemment, par rapport à l'espérance. C'est la présomption et le désespoir. Donc, ce sont les deux excès, j'allais dire, contraires à l'espérance. Présomption, donc, qui consiste à attendre de Dieu le ciel et les grâces nécessaires sans vouloir prendre les moyens qui nous sont prescrits. C'est-à-dire, on veut le ciel, mais sans prendre les moyens. Alors, concrètement, de temps en temps, bien, on va présumer de la bonté divine. Oh, Dieu est trop bon pour me damner. C'est pas possible, il m'aime tant qu'il peut pas me damner. Donc, on néglige ses commandements. Ah oui, bon, les commandements, oui, ça c'est bon pour les autres. Moi, non, parce que Dieu, il m'aime tellement. Donc, ça, c'est la présomption, évidemment. C'est, alors dans ce cas-là, on oublie, bien sûr que Dieu est bon, c'est vrai, mais on oublie qu'il est juste aussi, qu'il est saint, et donc qu'il hait l'iniquité. Oui, on regarde qu'une seule chose, on regarde que la bonté de Dieu, mais on oublie sa justice aussi. Et puis l'autre, bon, vous avez bien sûr, ou alors la présomption aussi, on présume trop de ses forces, par orgueil. Et on va se jeter au milieu des dangers, des occasions de péché. Et on oublie que celui qui s'expose au péché, eh bien, au danger, eh bien, il succombe. On se met en occasion de péché. Ah non, je suis fort, j'ai la grâce, vous allez voir ça. Et puis voilà, quoi. Non, non, il faut que je regarde tous les films à la télévision pour dire à mes enfants ce qu'il ne faut pas regarder, quoi. Voilà, évidemment. Non, j'ai la grâce, ça me fera rien, moi je suis au-dessus de tout ça. Ouais. Donc on s'expose, et après, bah, si on tombe... Ou pareil, après ça peut être... bon, enfin, je sais pas le moment, mais s'exposer d'imprudence. Imprudence, avec, on sait qu'avec telle personne, ça peut peut-être mal se passer, ou... Non, je suis fort, là, maintenant, allez, je me suis bien confessé, j'ai... non, non, puis je vais le convertir, vous allez voir... Attention, présomption. Bon, vous avez l'exemple classique de la présomption dans l'évangile, Saint-Pierre. Oh Seigneur, je mourrai avec vous, vous allez voir, pas de problème. Pierre, tu vas me renier. Non, non, Seigneur, c'est pas vrai. Devant une pauvre petite servante, t'étais avec lui, toi. Non, moi je ne connais pas cet homme, non, non. Il renie son maître. Premier pape qui renie son maître, ça commence bien. Ben oui. Bon, après, il l'a regretté. Bien sûr, il est sorti, il a pleuré. Différence de Judas, qui lui, justement, c'est le deuxième excès de l'espérance, c'est le désespoir. D'autres, au contraire, donc, vont être exposés au découragement et parfois au désespoir. Donc, c'est un manque d'espérance, par défaut. Donc on est tenté, de temps en temps on succombe, on est vaincu dans la lutte, ou alors on peut avoir des scrupules, et on se décourage, on dit « j'y arriverai jamais ». Et donc on commence à désespérer du salut. Non, là il y a l'exemple de saint Paul, hein, dans une de ses épîtres, qui nous dit justement qu'il est tenté, il est tenté, c'est écharpe dans la chair, nous dit-il. « J'ai demandé à Dieu d'en être délivré, et Dieu m'a répondu, ta grâce ». Ma grâce te suffit. Bon, eh bien, effectivement, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Donc, ne nous laissons jamais aller au désespoir. Ça, c'est Judas. Vous voyez, ça, c'est l'exemple typique de Judas. Au lieu de demander pardon, comme Saint-Pierre, la même nuit, les deux font une faute effroyable. Judas livre son maître, le trahit, et Saint-Pierre le renie. Bon, les deux, ça... quelque chose près, c'est presque la même chose. Ben, un, il se convertit, il reconnaît sa faute, et l'autre, non. Il se laisse aller au découragement. Voilà, donc ayons aussi une grande estime cette vertu d'espérance qui nous fait vivre habituellement en esprit, donc dans le ciel, et qui nous fait travailler pour le ciel. Donc, vertu très importante. Enfin, troisième vertu, la charité. La charité, comme vous le savez, c'est la plus grande des trois. Des trois vertus théologales, c'est la plus grande des trois. Pourquoi ? Parce qu'elle nous dit saint Paul, je vais vous lire le passage, elle demeurera dans l'éternité. Dans l'éternité, il n'y aura plus de foi, plus d'espérance, mais il y aura encore la charité. En effet, quand nous serons au ciel, eh bien la foi va faire place à la vision. Il n'y a plus besoin de croire, puisque nous verrons Dieu. Donc nous aurons la vision. L'espérance... Il n'y aura plus besoin d'espérer puisque nous posséderons Dieu. Donc nous posséderons Dieu, donc il n'y aura plus besoin d'espérer non plus d'être au ciel puisque nous y serons. Donc par contre, il restera la charité, l'amour de Dieu et du prochain. Alors la vertu de charité, quelle définition pouvons-nous donner ? Eh bien, c'est une vertu théologale qui nous fait aimer Dieu de la façon qu'il s'aime, par-dessus toute chose, pour lui-même. Nous aimons Dieu pour lui-même, et le prochain pour l'amour de Dieu. Donc vertu qui nous fait aimer Dieu de la façon qu'il s'aime, par-dessus toute chose, pour lui-même et le prochain, pour l'amour de Dieu. Donc on peut voir déjà, il y a un double objet, Dieu et le prochain. Mais en réalité, ces deux objets n'en font qu'un. Parce que si nous aimons les créatures en tant que telles, nous les aimons parce que c'est un reflet des perfections divines. Nous aimons notre prochain en tant qu'il est un reflet des perfections divines. Donc, ça veut dire que c'est Dieu que nous aimons dans le prochain, dans les créatures. Le prochain, nous l'aimons parce que Dieu est en lui, ou du moins, c'est pour que Dieu soit en lui. Vous voyez, on aime le prochain de cette façon-là. C'est pour ça, il n'y a qu'une seule et même vertu de charité. Alors cet amour de Dieu, bien sûr, le précepte de la charité pour l'amour de Dieu, eh bien le précepte est très étendu. Parce qu'en soi, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous ne pourrez jamais trop aimer Dieu. Pas possible. Comme on dit, la mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Donc ce précepte de la charité bien, nous oblige à tendre sans cesse vers la perfection. Et donc, notre charité doit grandir jusqu'à la mort. Donc là, vraiment, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite. Oh, je crois que là, j'aime un peu trop le bon Dieu. Non. Non. Que cet amour de Dieu, par contre, vous oblige à faire des choses que vous n'aimez peut-être pas, que votre nature n'aime pas, peut-être, c'est vrai. Mais autrement, non, vous n'aimerez jamais trop le bon Dieu. Alors, cette charité, bien évidemment, est la plus excellente et la plus sanctifiante des vertus. Alors, comme je le dis, voilà ce que nous dit saint Paul dans cette première épître aux Corinthiens, chapitre 13, ce bel hymne à la charité. Vous pourrez relire si vous voulez. Alors, si vous n'avez pas un Nouveau Testament, vous trouverez cette épître, on la lit au dimanche de la quinquagésime, c'est-à-dire le dimanche avant le mercredi des cendres. Ce bel hymne de la charité. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi transportée des montagnes, on n'en est pas encore là, hein, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Hein, donc, commencez pas à vous jeter au feu. Si vous n'avez pas la charité, ça vous sert à rien. La charité est longanime, elle est serviable, elle n'est pas envieuse, elle ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Etc. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant. Je pensais en enfant. Je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je l'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. Oui, nous verrons Dieu face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc demeure foi, espérance, charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Donc voilà, cette belle hymne de la charité. Donc cette charité nous unit à Dieu, bien sûr. Parce que notre esprit s'unit par l'estime et la pensée fréquente de Dieu. On s'unit en pensant souvent à Dieu. La volonté aussi s'unit à Dieu en se soumettant parfaitement à lui, à sa volonté divine. Notre cœur aussi, on subordonne toutes nos affections à l'amour divin. Donc, notre cœur est fait pour aimer, et quand nous aimons une créature, eh bien cela ne doit pas nous détourner de l'amour de Dieu, évidemment. Donc, il faut aimer dans l'ordre. Hein. Et aussi, toutes nos énergies, eh bien, sont mises au service de Dieu et des âmes. Cette charité nous pousse à mettre ainsi toutes nos énergies au service de Dieu, par notre devoir d'État, bien sûr. Et puis, en même temps, cette charité transforme, nous fait sortir d'un peu de nous-mêmes, nous sort de notre égoïsme. Et nous cherchons à reproduire en nous, eh bien, un peu les perfections divines. Rappelez-vous, je vous ai parlé de la simplicité divine. Eh bien, c'est vrai que par la charité, nous allons nous simplifier, nous allons tendre à cette simplification de notre vie. Et puis, entre Dieu et l'âme, eh bien, il y a une sympathie qui se crée. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre, à goûter Dieu de plus en plus. En même temps, elle centuple nos énergies, si vous voulez. Comme on dit, l'amour est fort comme la mort, dit la Sainte Écriture. Mais aussi, quand on aime Dieu, eh bien, on va être plus fort, on va chercher à faire sa volonté. Et en même temps, on aura une grande joie, une grande paix, parce qu'on est dans l'ordre, tout est ordonné. Donc la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Alors comment pratiquer cet amour de Dieu? Bon, je ne vais pas trop insister, parce que tous vos prêtres, généralement, vous insistent à longueur d'année. Donc, tout simplement, éviter le péché, donc tout ce qui est un obstacle à l'amour de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements, nous dit notre Seigneur. Donc, si nous voulons aimer Dieu, il faut pratiquer ses commandements, tout simplement. Ensuite, on va avoir l'amour de compassion. Quand on va admirer, contempler notre Seigneur souffrance, véritablement Dieu qui souffre pour nous, évidemment, notre amour va s'unir au sien. Et puis, notre preuve que nous aimons Dieu, bien évidemment, c'est l'accomplissement de sa volonté. Chercher la volonté de Dieu et l'accomplir. Fiat mihi secundum verbum tuum, et qu'il me soit fait selon votre parole. Père, non pas ma volonté, mais votre volonté. Et la Sainte Vierge, notre Seigneur au jardin des Oliviers. Voilà comment pratiquer cet amour de Dieu. Voilà donc les quelques minutes maintenant qui me restent, eh bien, je vais quand même parler de l'amour du prochain, qui est lié, donc qui fait partie de cette vertu théologale. Donc, comme je l'ai dit, on doit aimer notre prochain pour l'amour de Dieu. C'est qu'on aime Dieu dans le prochain. On aime le prochain pour Dieu. C'est-à-dire, si nous aimons le prochain uniquement pour lui-même ou à cause des services qu'il nous rend, dans ce cas-là, ça, ce n'est pas de la charité. Attention. Parce qu'on... Si on aime quelqu'un parce qu'il nous rend des services, il est gentil, c'est bien, je suis satisfait des services qu'il m'a rendus, donc il est gentil. Mais ça, c'est pas de la charité, parce qu'on l'aime pas pour Dieu. Donc c'est Dieu qu'il faut voir dans le prochain. Parce que, dans le prochain, chacun d'entre nous avons tous des dons naturels, qui sont une participation à l'être de Dieu, comme on a vu, aux attributs de Dieu. Donc ça, il faut aimer déjà ces dons naturels. Et puis évidemment, les dons surnaturels qui sont dans le prochain. Le prochain qui est en état de grâce, participe à la nature divine, à la vie divine. Donc nous devons aimer Dieu dans notre prochain. Donc si vous voulez, pour bien saisir ce motif de la charité fraternelle, il faut bien envisager les hommes dans leur rapport avec Dieu. Donc, dans ce cas-là, on va bien voir notre prochain comme enfant de Dieu. Notre prochain, comme nous, est enfant de Dieu, est membre de Jésus-Christ, fait partie du corps mystique de notre Seigneur. Et puis donc, il est co-héritier, comme nous, du royaume céleste. Notre prochain, comme nous, nous sommes destinés à aller au ciel. Et oui, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on peut passer au-dessus de tous les défauts ou les qualités naturelles que nous voyons dans le prochain. Il faut essayer de voir ce côté surnaturel. Il faut l'aimer en Dieu. Si quelqu'un qu'on ne supporte pas, ou qu'on a du mal à supporter les défauts, se dire, mais il est aimé de Dieu comme moi je suis aimé de Dieu. Donc, voyez, il faut monter à ce niveau-là pour bien comprendre ce précepte de la charité fraternelle. Et cette charité fraternelle bien pratiquée, évidemment, a un grand rôle sanctificateur. Je vous lis juste, c'est Saint Jean, le grand apôtre de la charité, vous trouvez ça surtout dans la première épître de Saint Jean au chapitre 4. Mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Comment celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons reçu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Terrible, hein ? Il faut y penser ça. Quand vous avez des... peut-être des tentations d'inimitié envers le prochain, bien pensez à ça. Celui qui n'aime pas son frère est un menteur. Ensuite, quelques petits points rapides sur la pratique de cette charité fraternelle. Bon, la première chose, évidemment, c'est d'éviter les défauts contraires à cette charité. Et donc, par exemple, éviter bien tout ce qui est les jugements téméraires, les médisances, les calomnies, tout ce qui est contraire à la justice, à la charité. Éviter les antipathies naturelles en tant qu'elles sont consenties. Attention, là aussi, de temps en temps, on peut avoir... Il y a des choses qu'on ne commande pas. C'est vrai, il y a ce que les anciens appelaient les atomes crochus. Il y a avec des personnes où on en a, où on n'en a pas. Alors le problème, c'est quand on n'en a pas. Alors quand on n'en a pas, alors on peut se faire, que faire ? Eh bien, il faut passer au-delà. Donc effectivement, se comporter, comme je l'ai dit, au niveau surnaturel. Bon, cette personne que je ne supporte pas, néanmoins, est aimée de Dieu. Et puis, j'allais dire, c'est pas la peine de provoquer les occasions de manquement à la charité. Donc on fait les devoirs qui sont normaux, et puis ensuite, on va qu'à nos occupations. Là, ce qui est reproché, c'est l'antipathie consentie. C'est-à-dire, cette personne, je ne la supporte pas et je ne veux pas la supporter. Donc, on consent, on ne l'aime pas et on rumine, et puis on est d'accord avec les sentiments qui arrivent. Alors là, non. Évidemment, là, il y a un manquement à cette charité. Évitez aussi, évidemment, toutes les paroles aigres, railleuses, méprisantes. Enfin, ça, vous connaissez par cœur. Pas besoin d'insister. Donc toutes les contestations, toutes les discordes, les rivalités, là aussi, donc tout ça c'est à éviter évidemment. Un point important aussi dans la charité fraternelle, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est ce qu'on appelle le scandale. C'est-à-dire c'est tout ce qui pourrait porter avec quelque probabilité le prochain à commettre un péché. Et ça souvent on n'y pense pas, c'est le scandale. Même quelque chose, on doit s'abstenir même de quelque chose qui est permis en soi ou même indifférent, mais qui peut devenir, à cause des circonstances, une occasion de péché pour quelqu'un d'autre. Et vous avez l'exemple qui se produisait dans les premiers siècles, donc saint Paul en parle. Vous savez qu'il était interdit, évidemment, de manger la viande qui était offerte aux idoles. Parce que c'était, d'une certaine façon, donner l'impression qu'on offrait aux idoles. Donc saint Paul, après avec la religion chrétienne, il n'y avait plus aucun problème. Manger la viande aux idoles, peu importe, de toute façon, il n'y a pas de faute. Mais saint Paul disait, attention, si en mangeant de cette viande, vous scandalisez, c'est-à-dire vous pensez porter au péché, c'est-à-dire faire croire à quelqu'un de plus faible que vous êtes idolâtre parce que vous mangez de cette viande, eh bien, abstenez-vous de cette viande. Alors qu'il n'y a pas de faute de votre part. Donc, vous voyez, saint Paul était très délicat. Eh bien, je crois que nous aussi, il faut être très délicat. Bon, je pense que j'en parlerai à un autre moment, quand on descendra dans les points un peu plus pratiques. Mais déjà, dire que le péché de scandale est un péché contre la charité. Et là aussi, faites attention, donc de ne pas être une occasion de scandale. Bon, que ce soit effectivement, c'est évidemment les problèmes des tenues, des danses et compagnie, quoi. Donc ne pas porter les autres au péché. Ensuite, si on veut monter d'un cran dans cette charité fraternelle, eh bien savoir supporter le prochain. Donc ne plus être une occasion de péché ou de nous-mêmes pécher, mais ensuite on se met aux côtés, on supporte le prochain malgré ses défauts. c'est déjà, on monte une marche. C'est pas toujours facile. Ensuite, on monte encore, c'est pardonner les injures, savoir les pardonner, savoir se réconcilier avec ses ennemis. C'est à lui, c'est à elle de faire le premier pas. Non, tant pis, on le fait. Et oui, c'est jusque ça, hein, la charité fraternelle. Rappelez-vous ce que notre Seigneur dit. Si, lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens offrir ton offrande. Et là, souvent j'insiste, je le répète, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. C'est pas toi qui en veux à ton frère, tu penses que ton frère a quelque chose contre toi. Alors, tu fais le premier pas, tu vas te réconcilier. Parce qu'on pourrait dire, oui, c'est moi qui lui en veux. Bon, c'est normal, j'y vais d'abord. Non, on imagine que l'autre nous en veut. Eh bien, on va d'abord se réconcilier. Vous voyez, hein, notre Seigneur est bien précis. Ensuite, eh bien, si on monte encore, eh bien, comme notre Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Donc, savoir imiter les exemples de notre Seigneur, la charité compatissante de notre Seigneur sur les malheureux, etc. Donc ensuite, savoir aider les malheureux de toute mesure, visiter les pauvres, les personnes âgées, les malades, faire des aumônes, etc. Donc vous voyez, tout ça, on peut progresser dans cette vertu de charité. En tout cas, n'oublions pas l'importance de cette charité fraternelle. Et là, juste un petit passage de Don Marmion qui en a bien parlé. Pour notre Seigneur lui-même, ce sera le signe, la charité fraternelle, dont il se servira au jour du jugement pour distinguer les élus des réprouvés. C'est lui qui nous le dit. Bon, vous vous rappelez au jugement du monde. Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc. Et puis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis les damnés, non, vous l'avez pas fait, j'avais soif, vous m'avez pas donné à boire, etc. Ainsi, de la bouche même de Jésus, nous savons que la sentence qui décidera de notre sort éternel sera établie sur l'amour que nous aurons eu pour Jésus-Christ dans la personne de nos frères. Quand nous paraîtrons devant le Christ au dernier jour, il ne nous demandera pas si nous avons beaucoup jeûné, si nous avons vécu dans la pénitence, si nous avons passé de nombreuses heures en oraison. Non, mais si nous avons aimé et assisté nos frères. Est-ce donc que les autres commandements sont laissés de côté? Non, certes. Mais leur accomplissement n'aura servi à rien si nous n'avons pas observé ce précepte si cher à notre Seigneur, puisque c'est ce commandement de nous aimer les uns les autres. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire oraison, qu'il ne faut pas jeûner, etc. Mais si on n'a pas pratiqué cette charité fraternelle, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, en conclusion, eh bien, vous voyez, ces vertus théologales sont essentielles pour notre vie spirituelle. Mais évidemment, il ne faut pas les laisser en friche, si je puis dire. Il faut les pratiquer, il faut les utiliser. Et je laisse là aussi cette conclusion donc à Don Marmion, dans Christ vide l'âme, qui nous dit « Dieu a mis libéralement en nous ses puissances, mais n'oublions pas que si elles nous sont données sans notre concours, elles ne se maintiennent pourtant ni ne progressent sans nos efforts. Bien qu'elles soient infuses, les vertus théologales n'échappent pas à cette loi de perfectionnement. Si elles demeurent inutilisées, ce sera au grand détriment de la perfection de notre vie surnaturelle. » L'exercice ne les fait pas naître, c'est vrai, autrement elles ne seraient plus infuses. Pour la même raison, c'est Dieu seul qui les augmente lui-même en nous. À la prière, à la réception des sacrements, il faut joindre l'exercice. Demandons donc souvent à notre Père des cieux de les augmenter en nous. Disons-lui surtout quand nous nous approchons des sacrements, dans l'oraison, dans l'intentation. Ô Seigneur, je crois en vous, mais augmentez ma foi. Vous êtes ma seule espérance, mais affermissez ma confiance. Je vous aime par-dessus toute chose, mais accroissez cet amour, afin que je ne cherche rien en dehors de votre volonté sainte. Voilà, nous pouvons nous rendre.